Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et c'était l'Endorphine, l'appartement, je m'en calisse. C'est le retour à la radio. Alors, je sais pas ce qui s'est passé il y a deux minutes, les gars. On m'a dit, à ce qui paraît, c'est un événement plein de surprises. Donc, je le découvrirai juste après. Charles Luther, vous avez de la chance de le découvrir avant moi. Vis-à-vis de ça, on avait fait un peu les taillages de la déclaration de Poutine, mais on n'avait pas assez fait les taillages de la déclaration des autres pays. Et là, je fais un petit retour du coup sur ce qu'a dit l'Empire de la Grande-Bretagne. Effectivement, à ce sujet, lors du sujet qui a suscité, comme on l'a vu parallèlement, beaucoup d'inquiétudes à l'échelle mondiale, la montée des tensions entre la Grande-Bretagne et la Russie a été très forte. Le lieutenant-général Sir Rob McGowan, lors de sa déclaration devant le comité de la défense de la Chambre des communes, a affirmé que l'armée britannique serait prête à affronter la Russie ce soir, s'il le faut, si l'agression russe en Europe venait à s'intensifier davantage. Cette déclaration a été suivie d'un avertissement de l'ambassade de Russie qui accusait la Grande-Bretagne de s'impliquer directement dans le conflit auprès de l'Ukraine et utiliser des missiles Storm Shadow fabriqués au Royaume-Uni pour frapper les cibles russes. Suite à ça, on trace quand même derrière cette volonté d'afficher et de défendre l'Ukraine se cache en réalité une stratégie assez complexe. En effet, l'armée britannique prépare la préparation de l'armée britannique montre que les tensions au sein de l'OTAN et les inquiétudes des ressources limitées et bien sûr les implications d'une escalade militaire directe avec la Russie va peut-être avoir lieu. Aujourd'hui, nous allons explorer cette question et voir potentiellement encore les risques potentiels à l'échelle mondiale de ce conflit russe-Ukraine dans un petit zoom avec bien sûr la Brita, le grand Royaume. Voilà, j'avais pas de EP musique, j'ai remis le jiggle, c'était pour le plaisir. Mais voilà.
Mais oui, c'est pour moi ça.
Une déclaration de McGowan est forte. Si l'armée britannique devait se battre ce soir, elle se battrait ce soir. If the British Army will fight that night, she will fight that night. C'est littéralement ce qui a été imposé avec le même ton, la même force et la même prononciation de la part de McGowan. Mais au-delà de ces mots, est-ce que ça reflète réellement la volonté du Royaume-Uni de se confronter face à la Russie, ou peut-être que la situation tendue de la part des forces britanniques prête plutôt une envie peut-être de provoquer ou alors peut-être de dissuader l'arrivée d'autres potentiels arrivants dans la confrontation imminente. Actuellement, que pensez-vous de cette déclaration ? William, je vois que tu veux parler.
Je pense que c'est du niveau de c'est qui est la plus grosse. Voilà. C'est le niveau zéro de la diplomatie. C'est,
je suis pas d'accord.
Ah bah si, mais mon gars, ils vont pas faire la guerre. Ils sont juste en train de dire mais il faut qu'on se batte.
L'Empire britannique affirme sa position de défense. Ils sont pas en train de dire que c'est pas la taille de la plus grande bite. C'est comme tu le dis vulgairement. Moi je pense que c'est plutôt une envie d'imposer et de dire les choses telles quelles, que si jamais la Russie attaque un pays occidental, on va pas se laisser faire. Tu vois, c'est pas écrit victime sur notre front, on va s'attaquer à vous, on va vous faire mal. C'est ça qu'ils essayent d'imposer. Et le fait que ça a renforcé leur point de vue, de par le financement des missiles Storm, je pense que là, actuellement, l'Empire britannique a potentiellement peut-être envie de découdre sur ça, parce que peut-être Sarint aurait peut-être des idées de quoi découlerait cette envie de confrontation de la part de l'Empire britannique.
J'irais un petit peu dans la même optique que William. J'irais d'une démonstration de pouvoir, pour le dire ainsi. Et surtout dans peut-être aussi des mesures dissuasives, on en a beaucoup parlé. Je trouve en politique là,
actuellement on peut plus parler de dissuasion. Ils ont envoyé des missiles. Il y a des missiles qui ont été envoyés, pas de la part directement de l'Empire britannique, mais indirectement. C'est quand même un soutien direct, parce que qu'on le veuille ou non, si on partage des missiles, c'est qu'on explique le fonctionnement, qu'on établit une relation. C'est comme si je te disais que je te prête une arme pour pouvoir taper quelqu'un, et je t'explique comment elle marche.
Mais
je participe au conflit
dans un sens que si les Britanniques font ça, Mais là, il va peut-être avoir la France qui vont faire « Ouais, nous aussi, on a des intérêts. » Puis après ça, l'Espagne, après ça...
Oui, mais en fait, c'est...
C'est plus dans une menace, dans une, ouais. une optique qu'après ça, les autres membres de l'OTAN vont se dire « Mais moi, je serais pas allé toute seule aller défendre nos amis l'Ukraine, mais là, si nos... »
Je suis complètement d'accord.
Si les autres sont là, pour moi, j'ai allé. C'est un peu comme on parlait dans un délire tantôt avant, quand on était vraiment pas sérieux. Dans une perspective, c'est un peu les, comme les Avengers. Là. Je n'ai pas laissé Ant-Man aller te casser la gueule tout seul à Thanos. Là. Je vais prendre les autres alliés avec moi dans
tout
cette...
à fait.
Pour montrer qu'est-ce qu'on a sous la dent, autre que juste les missiles britanniques. On va amener l'artillerie française, l'artillerie lourde, un peu tout, dans cette perspective-là.
Moi, je pense que je suis complètement d'accord avec Sarah. C'est juste... La dissuasion, ça passe aussi par hausser la voix. Ça passe aussi par montrer qu'on est capable de faire front face à une escalade. Si la Russie va envoyer des missiles, en fait, c'est ce qu'elle a déjà fait. Là, à l'heure actuelle, l'Empire britannique, comme vous dites, c'est l'Angleterre, du coup, quand on parle d'Angleterre.
C'est la Grande-Bretagne, oui.
C'est la Grande-Bretagne, tout à fait. Je pense que c'est juste une volonté de calmer le jeu. Tu vois ce que je veux dire ? De proposer de hausser le ton, c'est aussi une manière de faire de la diplomatie, c'est aussi une manière de montrer le grand jeu, en fait. Et de dire qu'on n'a rien à prouver, et justement, on est capable de dire si on voulait le faire, on le ferait, mais on ne le fera pas. Parce qu'on est dans une dynamique qui n'est pas celle-là. On ne veut pas la guerre. On peut se battre si on doit se battre, mais on a aussi la capacité de se défendre. Et on se défendra si nécessaire. Et ces mots-là, dans un contexte de guerre, ou dans un contexte même de j'ai envie de parler de guerre froide, en fait, parce que c'est aussi ça, finalement. On a des espèces de puissances qui sont en train de se regarder comme des chiens en faïence, tu vois, et qui ont juste envie de se dire qui c'est qui le tira le premier. On sait tous que ça va être un combat de cow-boy, finalement, dans lequel personne ne dégainera, finalement.
Après en soi, moi, je pense aussi, au-delà de ça, ça souligne aussi un facteur très important, c'est que l'OTAN ne sert à rien. Dans le sens où, actuellement, on a envie de se dire que peut-être l'OTAN peut... Alors mon micro vient de se débrancher, peut-être que c'est un sabotage, on sait pas, peut-être qu'on veut taire ma parole, en tout cas je dirai ce que je pense toujours et à chaque fois. Moi je pense que c'est surtout, ça montre que l'OTAN, en soi que l'OTAN, qu'on le veuille ou non, l'OTAN n'a pas de grande influence et que son armée est totalement unie. Ça nous montre que les capacités de ses forces armées à maintenir un engagement prolongé de la part de l'OTAN, c'est totalement non valable. Morgan lui-même a dit que l'armée pourrait manquer de munitions en cas du conflit prolongé. En outre, la réduction budgétaire et la désactivation de certains navires de guerre soulignent un manque de ressources de la part de l'Empire britannique, qui est dû notamment en partie grâce au fait que l'OTAN ne souhaite pas affaiblir ses forces armées. Et ça rendrait beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile une réponse face à la Russie, en fait. Tout simplement, moi je pense que c'est juste une menace dans le vent, et cette menace dans le vent, qui plus est, souligne la grande, comment je peux dire ça, le grand manque de ressources de la part de l'OTAN et des participants de l'OTAN, qu'on le veuille ou non, même la France, en vrai, même la France, on peut dire ce qu'on veut, mais la France, elle en parle, elle produit plus des armes qu'elle n'en crée pour elle. C'est triste à dire, mais c'est la dure réalité des choses. Est-ce que vous pensez, vous, que peut-être ce manque de ressources pour soutenir l'Ukraine sur le long terme pourrait peut-être affaiblir l'unité de l'OTAN et rendre beaucoup plus difficile d'avoir ce type de réponse ? Parce qu'actuellement, peut-être aussi que la Grande-Bretagne connaît ce risque et voudrait imposer tout de suite, maintenant, son veto, et c'est pour ça que le ton monte un peu partout. J'attends votre réponse, hein. Vous êtes là pour ça. Hein. Moi, je vous... Hey, réponds, hein. Moi, je rigole.
Chers auditeurs, je m'apprête à répondre à vos oreilles. Avant toute chose, je souhaiterais rappeler que dans un monde où la guerre semble inévitable, il tient qu'à nous de changer le monde, de marquer par les esprits de la paix, de marquer l'univers de notre capacité de réfléchir à un sens, à donner sens aux morts, à donner sens à nos souffrances.
Non, oui, mais...
Okay. Nous souffrons aujourd'hui.
Mais est-ce que tu penses que toi, actuellement... tu penses qu'actuellement, genre... peut-être que cette montée en tension, elle serait peut-être due aussi au fait que les gens... Que les accompagnateurs de l'OTAN savent que leurs ressources militaires vont bientôt être limitées. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi un facteur qui pousse les gens à aller vers l'avant comme ça dans
Je pense qu'on a une industrie en Europe, une industrie de l'armement qui est très, très performante. Et je pense qu'il ne tient qu'à nous de savoir quoi en faire. Et savoir quoi en faire, c'est s'en servir pour de la défense, s'en servir pour parader, s'en servir pour montrer qu'on est capable au monde entier de se défendre. Néanmoins, il ne sert pas à attaquer, il ne sert pas à faire de mal, il ne sert pas des causes belligérantes qui nous dépassent. Et telle est la question aujourd'hui en tant que Français que je me pose, c'est quoi notre avenir dans un monde où la Troisième Guerre mondiale toque à notre porte, il n'y a qu'à nous de refuser de lui ouvrir. Oui, j'espère que ma réponse niaise vous aura plu, chers auditeurs.
D'accord. Bah, merci en tout cas, William, de ta réponse
De rien.
Belle de promesse. Est-ce que, Sarin, tu aurais peut-être une réaction vis-à-vis de cela?
Je dirais manque de munitions, tout ça. C'est sûr que le combat s'éternise, les gens s'épuisent aussi, mais il faut se rappeler aussi que l'OTAN, outre le fait, peut-être le manque de capacité, manque de munitions, sur le plan des capacités techniques, si tous les membres s'associent, ça peut faire mal. Puis il faut aussi se rappeler qu'ils ont un avantage vraiment quand même géostratégique, comme en Lettonie ou dans les pays d'Europe de l'Est qui appartenaient autrefois à la Russie. Bien, on peut aller déployer des chars, on peut aller déployer des... juste leur faire peur. On dirait qu'on vous amène 300 chars d'assaut qui peuvent débarquer à la frontière. Donc c'est plus une mesure, je dirais, qui est encore une fois, je suis beaucoup dans la dissuasion aujourd'hui, mais... Je dirais, si Poutine il dit « Ah, moi, j'aimerais ça reprendre l'Estonie demain », bien là, on va se mobiliser puis on va faire... On est là!
c'est ça. Bah, peut-être, peut-être que c'est un cri de tension, peut-être que c'est un... Ce discours de la part de Poutine et de l'OTAN n'est pas aussi concret qu'on y croit, on espère en tout cas. En tout cas, pour le mot de la fin, je dirais qu'actuellement la situation est quand même tout au moins critique, que le Royaume-Uni et l'OTAN continuent de soutenir l'Ukraine ainsi que d'autres pays, mais que les défis restent toujours multiples, que ce soit les ressources, les limites, notamment les tensions croissantes avec la Russie et la menace d'une escalade nucléaire. En tout cas, la question désormais, c'est de savoir si cet engagement pourrait être un levier pour empêcher la Russie de franchir la ligne rouge, ou si nous sommes déjà dans une trajectoire incontrôlable. Ce sera le mot de la fin, la question de la fin pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les lundis de 9h à 11h avec nous dans l'émission Le 9. Moi, Ryan, accompagné de William, accompagné de Sarah. Le mot de la fin, c'est le 9.